Planète.
Planète.
Actualité.
On parlait effectivement de Richard Bain, qui, vous vous souvenez, je pense que c'était en 2013, 2014, cette histoire-là,
2012.
Mario. 2012? Oui, ça va vite. Hein? 2012, est allé avec des armes, une bonbonne de propane, vêtu d'une robe de chambre. Il a essayé de rentrer à l'intérieur du Métropolis pour ouvrir le feu. C'était le soir des élections et tout le gratin du PQ était là. Sa cible, c'était Pauline Marois. Puis là, ben, il a été condamné à 20 ans de prison. Mais lui, il voulait obtenir une libération conditionnelle. Ça lui a été refusé. Et à chaque fois que je vois cette nouvelle-là, j'ai des frissons. Parce que moi, Richard Bain, je l'ai connu avant, qui pose ce geste-là. Je lui avais parlé deux fois avant et je l'ai vu dans une journée complète passée avec lui à la pêche. Et pourquoi il a viré fou de même? La raison pourquoi il a viré fou comme ça, c'est que lui, il avait un genre de petit domaine privé entre Mont-Tremblant et Mont-Laurier. Pas loin de Mont-Tremblant. En fait, de sa propriété, lui-là, il pouvait voir le pic du Mont-Tremblant. Un endroit féerique, un petit lac privé, carrément privé. C'est un bail du gouvernement. Fait que lui, il payait à chaque mois. Il y avait deux chalets là-dessus. Un petit lac perdu dans le bois avec de la truite à l'intérieur du lac qu'il ensemençait. Puis pour se rendre à sa propriété, il avait besoin d'emprunter des chemins des voisins. Mais lui, il voulait en développer un commerce. Il voulait en faire le commerce. Il voulait avoir le droit de se lancer un genre de pourvoirie là-dessus. Puis là, il avait fait des démarches auprès du gouvernement libéral à l'époque et ça avançait bien. Très bien, dit-on. Il a dépensé 100 000 $ pour faire un chemin pour aller à sa propriété. Quand est arrivé les élections, lui, une décision dans son projet était attendue et les fonctionnaires lui ont dit, « Monsieur Bain, si le même gouvernement est reporté au pouvoir, là, ben ça devrait marcher dans votre affaire. » Mais lui, il avait vraiment peur d'un changement de gouvernement. Fait que quand c'est arrivé qu'il y a eu un changement, que Pauline Marois a remporté les élections, il a flippé. C'est un monsieur qui a été cadre toute sa vie, qui a eu des gros jobs toute sa vie, qui a fait beaucoup d'argent puis qui avait une bonne pension. Et ce soir-là, fouille-moi qu'est-ce qu'il a pris. Fait qu'il a posé le geste qu'il a posé. Et après que tout ça a été... après qu'il ait tué quelqu'un, qui a été mis en prison, cette propriété-là était libre, était à vendre, parce que lui voulait se payer des avocats. Et Richard Bain, je vous l'assure, m'appelait carrément, pratiquement, à toutes les semaines, si c'est pas trois puis quatre fois par semaine, pour que j'achète, moi, sa propriété. Parce que moi, j'y étais à sa propriété. Je trouvais ça bien beau, un beau petit chalet en bois rond. Tu sais, brun foncé, belle couverture rouge qui donne sur un lac avec seulement un autre chalet. Malade. Ça m'intéressait, mais les papiers étaient tellement tout croche que tu peux pas juste sortir de l'argent de même, acheter ça, puis te faire prendre après ça. Tu n'as plus le droit d'y aller parce qu'il n'y a pas de chemin. Le chemin qu'il a fait, il l'a fait chez le voisin. Il s'est trompé de... Hey, il l'a pas fait sur le bon terrain. Fait que c'était compliqué, son affaire. Puis là, ben, vous comprenez que quand tu as un seul appel par jour en prison, une fois que tu as raccroché, lui, s'il fait son appel puis que je réponds pas, il est foutu. Mm-hmm. Fait que ça a tourné en rond comme ça. Et finalement, ça a été vendu pour une beurrée de... pour rien. Personne n'a décidé de prendre son risque. Mais c'est ça l'histoire de Richard Bain. Fait qu'à chaque fois que je le vois dans l'actualité, j'ai des frissons. Parce que ce gars-là, visiblement, était dérangé. Là. Mettons qu'il avait décidé de se triper à la coche, puis j'étais dans sa chaloupe. Non, non, mais tu dis ça.
Non, non, mais tu poses des questions, c'est sûr, après. Je veux dire, je pense que tu n'es pas en train de le défendre ensuite. Là,
mais
non
oui,
plus, c'est
ça.
Ce que fait, c'est...
Ça n'a pas d'allure, ça n'a pas d'allure. J'avais amené mon père avec lui. Mm-hmm. Écoute, il nous a amené là en hélicoptère.
Mm-hmm.
C'est incroyable. OK, ça, c'est pour Richard Bain. À part ça, Lucian Bouté qui prend sa retraite. Lucian Bouté, je l'ai reçu en entrevue peut-être dans ma vie 40, 50 fois. Vous savez que je viens d'être dans le monde du sport, alors... jeune homme gentil, à sa place, travaillant, québécois, mais vrai, là. Il a appris le français pour le vrai, lui. Lui, là, s'est intégré. Et lui, la culture québécoise, il l'aime. C'est un émotif. 14 ans de boxe, 39 ans d'âge, un dossier sans tache, toujours poli, toujours bien habillé, c'est pas un bum. Il y a du cash. J'imagine qu'il a bien placé son argent. Il me fait pleurer, moi, ce gars-là. L'erreur de sa carrière à Lucian Bouté. L'erreur de sa carrière à Lucian Bouté, c'est quand on a décidé de l'envoyer se battre en Allemagne contre Karl Frosch, qui lui aussi est un excellent boxeur. Lucian était le champion. Tu t'assois chez vous, tu reçois les autres à la maison. C'est de même ça marche quand t'es champion. Tu vas pas danser sur le perron du voisin à l'autre bout du monde. On a décidé d'aller se battre en Allemagne. C'est là qu'il s'est fait passer le chaos. Puis ce soir-là, je pense que c'est au quatrième round. J'étais dans une cage au sport à Trois-Rivières. Quand Lucian s'est fait passer le chaos, je vous le dis, j'avais les larmes aux yeux. Je pleurais. Parce que ce gars-là, je l'aimais d'amour. Il était fin. Gentil avec moi. Il venait en studio, puis il me posait des questions sur ma vie. Il voulait pas juste savoir c'est qui l'animateur de radio. C'était un bon gars, comprenez-vous? Fait qu'hier, quand j'ai vu les images, puis j'ai entendu Lucian Bouté, dans le fond de mon petit cœur, j'y ai dit merci, Lucian, pour tous ces beaux moments, pour toutes ces entrevues et pour la belle carrière.
Je me suis battu ici, au Centre Bell, pour cette ceinture-là. J'étais sur la table. J'ai accompli mon rêve, j'ai réalisé mon rêve. C'est là que de devenir champion du monde. Quel beau moment, quel souvenir que j'ai avec vous, avec tout le monde qui sont présents ici.
Lucian Bouté, bravo, belle carrière, mon homme. Tu mérites tout ce que tu as. Là, on nous dit que le budget aujourd'hui va sortir puis qu'il va y avoir une réforme des taxis. Uber, on n'en voit pas une tonne dans la région ici, Mario, hein? Et c'est pas
beaucoup.
Hein?
Plus à Ottawa.
Beaucoup plus à Ottawa.
C'est pas réglementé de la même façon.
Donc. À Montréal, c'est plein. Ouais. Ça bouge beaucoup. Puis là, ben, on va en avoir probablement plus parce qu'on ouvre la voie à Uber. Le problème avec ça, puis j'imagine que c'est un peu ça aussi à Ottawa, mais certainement beaucoup à Montréal, c'est que les chauffeurs de taxi, être chauffeur de taxi, là, tu peux pas t'improviser demain matin. Là. Mettons, Richard Labelle, il décidait d'être chauffeur de taxi. D'ailleurs, lui, il a le profil parfait d'un chauffeur de taxi, Richard.
La politesse.
Hein? Il est poli. Il est gentil.
Oui.
Hein? Puis tu t'assois dans son char, puis il te parle de Bob Morane.
Pas juste ça, Michel, plein d'affaires.
Tellement d'affaires. Le problème avec ça, c'est que tu ne peux pas t'improviser, tu ne peux pas décider demain. Hey, moi, je deviens, il faut que tu aies une licence, il faut que tu aies le permis de pouvoir opérer une voiture taxi. Fait qu'il y a des compagnies qui ont des permis, et à Montréal, comme dans bien des villes aux États-Unis également, puis c'est ça le problème avec Uber, c'est qu'il y en a qui ont des permis, tu as le droit d'avoir un permis, une licence personnelle, de l'acheter. Puis ça, ça a une valeur, c'est comme une transaction de maison. Ça vaut cher, ça. Fait que si tu as payé, je sais pas moi, 350 000, puis là, j'exagère pas, là, pour ta licence de taxi, tu payes là-dessus à chaque mois, puis là, ben, tu as tes recettes, puis tu te rembourses, c'est le même, ça marche. Puis quand tu vas arriver à 65, tu vas avoir des lunettes trop épaisses ou 72, puis tu n'es plus capable de conduire dans la circulation, puis d'aller aussi vite, les clients tapent ses nerfs, tu dis, bon, ben là, moi, je vais vendre ma licence, puis je vais prendre ma retraite. Mm. C'est ça l'idée. Le problème avec Uber, c'est que c'est venu altérer la valeur des licences. Fait que les gens qui pensaient avoir un demi-million, 600 000 piastres dans certaines villes pour leur licence de taxi, avec l'arrivée de Uber, ça vaut plus de la... Ça vaut pas cher. Fait que là, leur plan de retraite, fait qu'il y a tout ça, sans compter les frais, sans compter la méthode, sans compter les consignes, sans compter les étapes à suivre pour être chauffeur de taxi. Uber court-circuite tout ça. Fait que là, on va mettre de l'ordre dans la cabane. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner aujourd'hui. La députée péquiste Lorraine Richard accuse Catherine Fournier. Hey, Catherine Fournier, une jeune députée qui n'a rien fait finalement, s'est fait élire, puis après ça, elle a dit finalement, pas trop, trop ça. Les valeurs du PQ, c'est une équipe en train de mourir, ça, moi, non. Et elle, alors que Jean-François Lisée a déclaré intelligemment à Paul Arcand il n'y a pas longtemps, on a surmonté de grandes démissions au PQ à travers l'histoire. Je pense pas qu'on va mourir de Catherine Fournier. Bien, la députée Lorraine Richard ne partage pas ce point-là parce qu'elle dit qu'on est en train d'enterrer, on est en train de démolir, on est en train de tuer le Parti québécois. Le Parti québécois, l'option souverainiste au Québec, est en train de mourir en raison de la démission de qui? De Catherine Fournier. Moi, ça me dépasse. Hier, M. Fergus a fait un commentaire pas pire sur le site de Radio-Canada. M. Fergus, que j'ai reçu en entrevue hier matin, là, puis qui n'était pas capable de nous dire c'est quoi les priorités de l'équipe libérale. Lui a certainement une priorité du train léger, mais il n'est pas capable de reconnaître que le pont, il faut que ça passe avant le reste, selon le gouvernement. Il n'est pas capable de le dire. Il n'a pas été capable de le dire hier. De l'admettre, du moins. Pas grave. Il dit, on a un gouvernement fédéral qui veut investir massivement dans les transports en commun. On a un gouvernement provincial qui veut électrifier notre système de transport en commun. Puis, on a une administration municipale qui est prête à passer au rail. En mettant tous les acteurs ensemble, je pense qu'on peut développer un projet qui a de l'allure et qui va être très structurant, qui va être à la hauteur des attentes des gens de Gatineau. Ça, c'est M. Fergus, le député libéral fédéral de Hull-Aylmer. Il n'a pas compris que son gouvernement vient de faire un budget et qu'il n'a pas mis une maudite scène ses trains. C'est assez particulier au lendemain du budget qu'ils disent une chose comme celle-là. Je complète avec un extrait d'entrevue que Louis-Philippe Brûlé a présenté hier avec Jean-Simon Buy. C'est notre collègue de Cogeco Nouvelles à Québec. Il s'est intéressé à une page Facebook, écoutez ça, le groupe de support pour Éric Salvaille. Sur cette page-là, on insulte à qui mieux Donald Duguay. Qui est Donald Duguay? C'est la présumée victime de Salvaille. On écoute un extrait d'entretien.
Je vous invite aujourd'hui à entrer dans un monde parallèle, littéralement. C'est 6200 fans et absolument incontestable d'Éric Salvaille. Aucun moyen de les faire changer d'idée. C'est un groupe où ces milliers de personnes-là règnent avec la pensée unique. Si quelqu'un dans le groupe décide de faire un commentaire négatif, une critique ou de soulever un doute quant à la culpabilité d'Éric Salvaille, il est banni séance tenante du groupe. C'est aussi simple que ça. Sylvie est une des membres, je dirais, assez active du groupe et elle a accepté très candidement, vous allez l'entendre dans son témoignage, de m'expliquer pourquoi elle appuie Éric Salvaille. Donc, la première question que je lui ai posée, c'est quelles sont les raisons qui la poussent à rester derrière son animateur favori malgré les accusations criminelles?
Je passe par-dessus ça. Je sais pas jusqu'où c'est allé, là. On n'a pas assez de détails à savoir, y a-tu vraiment violé quelqu'un, une petite fille, un petit garçon, y a-tu... C'est violé, là. C'est sûr que s'il se montre le sexe et tout ça, je trouve personnellement que, bon, c'est pas drôle à dire, mais je pense que c'est pas tant grave à mon... il me semble que c'est aux personnes à qui ce qu'il a montré son sexe de lui dire « Non, fais pas ça, je veux plus que tu fasses ça, c'est pas correct, pis tout ça. » Mais à ce que je cherche, il me semble qu'il a pas violé quelqu'un, là, violé sexuellement, là, en tout cas, à moins que je me trompe.
Et bon sang. Ça se passe de commentaires.
Ça existe, ça.
Je veux juste compléter. Au diable les sports ce matin, on y reviendra plus tard. À Solide comme le rock hier, à chaque fois qu'il passe à la radio, moi, ça m'impressionne toujours. M. Mike Duggan, l'aime beaucoup, le conseiller municipal de Gatineau. Je l'aime beaucoup à la radio. Je vais vous dire ça de même, là. Aime ça l'entendre à la radio. Tu sais jamais qu'est-ce qui va te sortir. Et puis là, évidemment, après l'entrevue avec M. Fergus hier matin, qu'on a essayé d'avoir, puis je dis bien, on a essayé d'avoir, ça a l'air que ça n'a pas plu à toute l'équipe libérale, d'ailleurs. Hein. On a essayé d'avoir d'autres entrevues avec des gens du Parti libéral du Canada. Puis là, ils refusaient parce que ça avait été trop dur pour M. Fergus hier matin. Mais M. McKinnon était avec nous hier midi quand même. Lui triomphe. Ça démontre ce que je disais hier à Françoise Boivin. Ils ne s'aiment pas en face, un et l'autre. Pas compliqué, là. En tout cas, Mike Duggan, hier, en entrevue avec Rock Cholette. C'est du bonbon. On écoute.
Bonjour, M. Duggan.
Bonjour. Ça va bien?
Oui, ça va bien. Est-ce que c'était le sifflet du train, ça?
Pas besoin d'écouter plus. Pas besoin d'écouter plus. On a compris. C'est du Mike Duggan.